SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au programme en français sur SBS Audio. Pour vous accompagner ce mardi, Bertrand Tongandamé et Jean-Noël Ducasse. Dans le programme, on reviendra sur le désistement de Joe Biden aux présidentielles américaines du mois de novembre prochain. On ira aussi à la rencontre des deux restaurateurs, deux frères restaurateurs basés à Sydney. On vous propose également un point sur la grande boucle. Mais sans plus tarder, l'actualité de ce mardi 23 juillet. Au sommaire, la police décrit un décès par délit de fuite dans le Queensland comme un homicide lié à la violence domestique. En France, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse pour la première fois après les élections législatives anticipées, alors que les tractations pour la nomination d'un Premier ministre s'enlisent. Et aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris définit les grandes lignes de sa campagne pour les présidentielles du mois de novembre prochain. La police du Queensland privilégie la thèse de violence domestique dans le cadre d'un meurtre d'une jeune femme qui a été heurtée par un SUV vendredi dernier au sud de Brisbane. Keisha Thompson, âgée de 23 ans, a été frappée à Daisy Hill et est décédée à l'hôpital la même nuit. La police a identifié Larissa Rita May-Lay-Sant, âgée de 24 ans, comme conductrice du SUV et l'a accusée d'homicide. Selon les enquêteurs, cette dernière entretenait une relation avec Tyler Scott William James, âgé de 27 ans, qui a également été accusé de meurtre. Selon l'inspecteur détective Chris Knight, il s'agissait d'un homicide dû à la violence domestique.
The offence that they've both been charged with relates to the offence of homicide, but it has the circumstance of aggravation in that it was a domestic violence relationship. So we believe that the we will be alleging that the lady that was charged on Saturday night is a partner of the individual that we charged last night.
Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez besoin de soutien, vous pouvez appeler le service de conseil en matière de violence domestique et familiale 1800 1800 737 732 ou Lifeline 13 11 14. Mais en cas d'urgence, appelez le 000. Le premier du Queensland, Stephen Miles, a condamné le Parti national libéral pour avoir utilisé un deepfake généré par intelligence artificielle pour se moquer de lui dans une vidéo publiée sur la plateforme TikTok. Cela survient alors que le gouvernement du Queensland propose des nouvelles lois pour cibler des délits qui utilisent l'intelligence artificielle pour soit transformer l'image d'une personne ou la superposer à du matériel embarrassant, voire pornographique. Un rapport de Sensity de 2019 a révélé que 96% des deepfakes étaient des deepfakes sexuels non consensuels et parmi eux, 99% mettaient en vedette des femmes. Les nouvelles lois à l'étude visent à réprimer l'utilisation de la technologie deepfake pour produire et partager des images sexuelles modifiées numériquement sans consentement. Les lois imposeraient une peine de 6 ans de prison aux adultes qui partagent des images deepfake sexuellement explicites sans consentement et une peine de 7 ans pour la création ou la distribution de ces images. Nicole Lambert, présidente de l'Association nationale des services contre la violence sexuelle, a souligné aujourd'hui, lors d'une audience au Sénat, l'impact grave des deepfakes sur les victimes.
You have women who they have no way of knowing who's viewed that material. Everywhere they go, that question sits in their mind. Have these people seen that? Do these people know? Family members, grandparents, extended family, co-workers, employers. The impact of that is it's almost impossible to kind of quantify.
La police parisienne enquête sur des allégations selon lesquelles une ressortissante australienne aurait été victime d'un viol collectif à Paris. Les médias locaux rapportent que la jeune femme de 25 ans a déclaré à la police qu'elle avait été agressée sexuellement par 5 hommes. Elle aurait été retrouvée dans un magasin de kebab samedi à 5h du matin sur le boulevard de Clichy près du Moulin Rouge. Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce a été contacté pour commentaire. On reste toujours en France où Emmanuel Macron va donner sa première interview depuis les législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet dernier. Le président de la République donnera une interview à France Télévisions et Radio France ce mardi. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis les élections anticipées. Les 15 élections se sont déroulées donc le 30 et 7 juillet dernier. Le 30 juin et 7 juillet dernier, et dont les conséquences se ressentent toujours. À gauche, le nouveau Front populaire tente toujours de se mettre d'accord sur son candidat au poste de Premier ministre, mais le champ des possibles s'est encore réduit hier, après le retrait de la diplomate et universitaire Laurence Toubiana. C'est donc un retour à la case départ. Aurélien Duvernois, RFI.
Le communiqué de l'ancienne négociatrice de l'accord de Paris sur le climat est venu mettre fin à une semaine de tensions au NFP. Laurence Toubiana dit prendre acte des oppositions que sa candidature suscitait au sein de l'Alliance de la gauche et des écologistes. Pour parler clairement, les insoumis ne voulaient pas d'elle après que les socialistes ont rejeté la candidature de la présidente de la région La Réunion, Huguette Bello, soutenue par LFI. Et maintenant, eh bien, pas grand-chose. Des discussions sont en cours entre les négociateurs des différents partis du NFP, mais hors de question de sortir un nouveau nom, sinon c'est le tir au pigeon, dit une conseillère de l'Alliance. Au Parti Socialiste, on fait part de sa déception de voir Laurence Toubiana se retirer, mais l'on aimerait toutefois se mettre d'accord sur une équipe gouvernementale avant la trêve estivale. Pas de résignation non plus côté écologiste. En revanche, les insoumis semblent de plus en plus favorables à un report des discussions à la rentrée, tout en fixant une ligne rouge énoncée ce week-end par Jean-Luc Mélenchon. Pas question d'élargir le potentiel gouvernement au-delà des frontières du nouveau Front populaire.
Et à droite, si les Républicains, le camp présidentiel, ont su trouver un accord pour l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir, le leader des Républicains, Laurent Wauquiez, n'entend toujours pas entrer au gouvernement et positionne son parti résolument dans l'opposition. Raphaël Delvolvé pour RFI.
Lutte contre la cistana, assainissement des finances publiques, rétablissement de l'autorité et nouveau durcissement des règles de l'immigration. Avec son pacte, la droite se classe dans l'opposition mais se veut responsable, Laurent Wauquiez.
Il ne faut pas qu'il y ait face à Emmanuel Macron des oppositions qui ne soient que caricaturales et extrémistes. Nous sommes dans l'opposition. Mais ça ne nous empêche pas de discuter, ça ne nous empêche pas de se respecter.
Le leader de la droite assure n'avoir consulté personne en Macronie. Il écarte d'ailleurs toute entrée au gouvernement.
Ça n'est pas une coalition gouvernementale. Au vu des dégâts qu'Emmanuel Macron a fait à l'intérieur du pays, il est impensable pour nous de signer un chèque en blanc.
Mais qui alors, pour reprendre des propositions sur l'immigration déjà faites, mais censurées par le Conseil constitutionnel, ou encore intégrer 25 milliards d'euros d'économies dans les prochains budgets? Le nouveau chef des députés LR reste vague.
Tout exécutif qui se saisirait de ce pacte législatif, nous nous engageons de notre côté à voter les lois qui sont à l'intérieur.
Et fixe deux lignes rouges.
Nous nous opposerons à toute augmentation d'impôts. La deuxième ligne rouge, c'est toute économie qui serait faite sur le dos des retraités.
Outre la volonté de faire infléchir la politique gouvernementale vers la droite tout en restant dans l'opposition, Laurent Wauquiez, c'est aussi un objectif. À la sortie de sa conférence de presse, un de ses conseillers raconte « En introduction de notre première réunion de groupe, il nous l'a dit, la prochaine étape, c'est l'Élysée ».
Toujours en France, à la veille des Jeux Olympiques de Paris, les préparatifs s'accélèrent, mais avec des tombées pas toujours positives. En effet, le collectif d'associations Le Réveil de la Médaille sonne l'alerte sur les effets des JO sur les plus précaires, notamment les sans-abri. Amélie Beaucourt.
Avec l'arrivée des Jeux, les hôtels dans Paris qui hébergeaient les familles ont repris leur activité touristique et les alternatives marginalisent encore plus les personnes vulnérables, selon Bénédicte Maraval, assistante sociale.
La plupart du temps, c'est dans le fin fond du 77, la semaine d'après dans le fin fond du 78, dans le 91, c'est vraiment dans toute l'Île-de-France et très difficilement accessible en transport en commun. Pour manger, pour tout le quotidien, elles sont obligées de revenir à Paris, où elles savent où trouver l'aide alimentaire. Elles font des allers-retours tous les jours.
Au total, 3000 places d'hébergement d'urgence en hôtel ont été retirées en un an au SAMU social de la région parisienne.
Et pour rappel, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques aura lieu ce vendredi 28 juillet sur la Seine, et non pas dans un stade, une première mondiale. On signale que le président Emmanuel Macron a visité hier le village olympique déjà à moitié rempli. On se rend aux États-Unis à présent où la vice-présidente Kamala Harris a déclaré que renforcer le bien-être de la classe moyenne serait au centre de sa présidence. Parmi les autres grandes priorités figurent le contrôle des armes à feu et les droits reproductifs. Madame Harris s'est entretenue avec le personnel de campagne électorale dans l'État de Delaware et a promis de remporter la présidentielle du mois de novembre prochain.
And so over the next 106 days, we are going to take our case to the American people and we are going to win. We are going to win.
Le président Joe Biden, qui s'isole alors qu'il se remet du Covid-19, s'est adressé au rassemblement par téléphone.
I want people to remember that what we have done has been incredible and we get so much more we're going to get done. I know yesterday's news is surprising and it's hard for you to hear, but it was the right thing to do. I know how hard you've worked, how many sacrifices you've made. And so many of you uprooted your lives for me and the kind of commitments few people make for anything these days, but you made it.
Et toujours aux États-Unis, le directeur des services secrets affirme que la tentative d'assassinat de Donald Trump est l'échec opérationnel le plus important de l'agence depuis des décennies. Malgré cet aveu, Kimberly Chittle a déclaré lors d'une audience au Congrès qu'elle était la bonne personne pour diriger les services secrets. Elle a cependant frustré les républicains et les démocrates en évitant de répondre à certaines questions sur l'enquête, y compris lors de cet échange où la républicaine Lisa McClain du Michigan lui a demandé combien des douilles d'obus avaient été trouvées sur le toit d'où le tireur avait commencé à tirer.
I think it's pertinent to talk to you about the information that the Secret Service has and that the Secret Service knows related.
I'm asking you an answer to the question. If you're supposed to be in charge, if the buck stops with you, how come you can't share the answers? What are you covering up? What are you hiding, my friend?
I'm not covering anything up.
Then why can't you answer a simple question?
I would leave it to the criminal investigation to answer questions related to that.
Au Kenya, des girafes Maasai ont été réintroduites dans la réserve de Ruko à l'est du pays. Ces animaux sont envoyés dans la région avec l'objectif d'y développer le tourisme et de mettre définitivement fin aux affrontements ethniques qui divisent la région. En somme, des girafes émissaires de la paix. Arthur Baudin, RFI.
Sa population a été réduite de moitié en 30 ans. La girafe Maasai fait heureusement partie des deux espèces réintroduites dans la réserve de Ruko. Cette aire protégée a été créée au milieu des années 2000 avec un double objectif, réintroduire les girafes dans cette région qu'elles avaient désertée et ramener la paix entre les deux ethnies locales, les Poko et les Ilchamou. À cause de vols de bétail, ces populations se sont violemment opposées durant des décennies. Douglas Longomo, un fermier Poko de 27 ans, explique à l'AFP qu'il a fallu du temps avant de convaincre les deux communautés de mettre fin aux affrontements pour développer le tourisme. Depuis la réintroduction des premières girafes en 2011, quelques petits conflits subsistent, mais rien de comparable au passé. À chaque arrivée de girafes, les deux ethnies tiennent même une cérémonie commune, dansent et chantent ensemble, une scène inconcevable au milieu des années 2000.
Et pour conclure l'actualité, la météo à travers les grandes villes du pays, Perth averse qui s'atténue, 17 degrés, Adélaïde temps assez ensoleillé, 18 degrés, temps assez ensoleillé à Melbourne également, avec un maximum de 17 degrés. À Hobart, partiellement nuageux, 17. Canberra, partiellement nuageux également, et 15 degrés. Wollongong, ensoleillé et 19 degrés. Même condition à Sydney, avec un maximum de 20 degrés. Newcastle, temps ensoleillé, 21 degrés. Brisbane, ensoleillé également, et 23 degrés. Cairns, possibilité d'averse, et 25 degrés. Et très beau temps et ensoleillé à Darwin, avec 31 degrés. h 14 minutes 26 secondes sur les antennes de Radio SPS. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français. Après une courte pause, on retrouve Jean-Noël Ducasse avec le magazine des sports.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Le journal des sports de ce mardi 23 juillet, avec tout d'abord le Tour de France, fin de la 111e édition dimanche avec le Slovène Tadej Pogacar qui l'a emporté à nouveau. Il a remporté 6 étapes dans cette édition de 2024. On l'écoute.
Yeah, I'm super happy. I cannot describe how happy I am after two hard years in the Tour de France. Always some mistakes and this year everything to perfection, and I'm out of the words, so I'm super happy.
C'est la troisième fois qu'il remporte le Tour de France après les victoires de 2020 et de 2021. Sarah Loubacouche, RFI.
Remporté cette édition 2024 et au passage, il s'est offert le luxe de survoler la dernière étape, un contre-la-montre individuel de 34 km entre Monaco et Nice. Pogacar, trop fort, s'adjuge sa 6e étape rien que sur cette grande boucle. Et à 25 ans, c'est son 3e Tour de France. C'est aussi le premier coureur à signer le doublé avec le Tour d'Italie depuis Marco Pantani en 1998. À l'arrivée, le Slovène était tout simplement ravi d'avoir atteint ce niveau de performance cette saison.
C'est dur de trouver les mots pour décrire à quel point je suis heureux après deux années difficiles sur le Tour. C'était la première fois sur un grand Tour où je me sentais vraiment confiant à 100% tous les jours. Le gagner, c'est déjà quelque chose de fou. Alors remporter le Giro et le Tour de France la même année, c'est un cran au-dessus. Je suis très heureux et fier de ce que mon équipe et moi avons accompli.
L'Érythréen Binyam Girmay, à 24 ans, a remporté le maillot vert, c'est le premier Africain à le faire, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Un énième bain de foule l'attend et l'attendra. La ligne franchie, Binyam Girmay enlace sa femme et sa fille. Moment d'intimité furtif, tout le monde veut un sourire de la révélation du Tour. Christian Prudhomme, le patron de la course.
On l'avait vu remarquable, vainqueur d'une classique il y a deux ans, mais là il explose au plus haut niveau, avec un style félin incroyable, d'une fluidité totale. Bien sûr qu'il peut inspirer, c'est ce que nous souhaitions, des générations de futurs champions, sans le moindre doute.
Maillot vert, meilleur sprinteur du monde à 24 ans, et maintenant que peut viser Binyam Girmay? Ce supporter a une petite idée.
La médaille d'or à Paris, ouais. C'est pour compléter son mission, quoi. Là, ça, il a la mission.
Les Jeux Olympiques dans quelques jours, pourquoi pas, le parcours lui convient, mais Binyam Girmay devra aussi gérer l'après-tour. Pierre Roland, ancien vainqueur d'étape sur la grande boucle.
Il va falloir assimiler tout ce qu'il a fait, se remettre en question, retourner au travail cet hiver. Pas falloir qu'il aille trop sur son petit nuage parce que ce sport est ingrat. Faut qu'il continue d'écrire l'histoire de son sport. Je pense qu'il est né pour ça.
La dernière étape a eu lieu à Nice et non pas à Paris à cause des JO. Reportage Sam Spencer, RFI.
Dernière étape du Tour de France sur la promenade des Anglais.
C'est historique.
Olivier a du mal à cacher son émotion.
C'est la plus belle chose que j'ai vue depuis que j'habite à Nice. Vraiment, il n'y avait pas meilleur endroit pour, à part Paris, faire arriver le Tour.
Ce Niçois de 37 ans est un grand fan du Tour de France et assistera pour la première fois à cette dernière étape à domicile.
On va pouvoir participer, voir les champions en vrai.
Parmi les coureurs qu'Olivier veut absolument voir, Jasper Philipsen, le maillot vert du Tour 2023.
Yeah, it's different. It's not traditional.
C'est différent.
différent, ça n'est pas traditionnel, mais c'était agréable de faire cette dernière étape sans stress.
Tandis que pour le sprinter Brian Coquart, l'arrivée à Nice...
De temps en temps, ça change, pas tous les ans, parce que c'est quand même bien les Champs-Élysées d'arriver à Paris.
Et il y en a un qui n'aura pas eu la meilleure des expériences sur ce tour, c'est Sandy Dujardin qui s'est fracturé le poignet à la 8e étape.
J'aurais bien aimé finir à Paris, mais je me dis que, en fait, avec la telle et les pavés sur les champs, je sais pas si ça aurait été une bonne option.
Sandy Dujardin qui l'ajoute, il espère courir dès l'an prochain les eaux intactes pour pouvoir donner son maximum jusqu'aux Champs-Élysées.
Les préparations des JO avec Tony Estanguet, le patron, qui se dit optimiste pour la cérémonie d'ouverture. On l'écoute.
Les prévisions météo sont très favorables, notamment sur les précipitations. On a un débit là qui a énormément baissé depuis une semaine, hein, qui était historiquement haut depuis plusieurs mois. On n'avait jamais vécu ça en France depuis très 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 longtemps. Donc c'est vrai que ça a pu générer un petit peu de doute à un moment donné, alors que tout était prévu pour que ce soit prêt pour début juillet. Ça a été le cas. La qualité de l'eau de la Seine est au rendez-vous. Le débit baisse maintenant. Et voilà, vu les prévisions météo qui sont vraiment très fines aujourd'hui, pour les 5 jours qui viennent, effectivement, il n'y a plus aucun risque pour cette tenue de cérémonie d'ouverture.
En basketball, il y avait des matchs de préparation et l'Australie a battu la France par un seul petit point, 83 à 82. Sarah Loubacouche, RFI.
L'Australie qui a battu les Bleus ce dimanche 83-82. Le panier de la victoire a été inscrit à une seconde du buzzer. Pas très rassurant donc à quelques jours du début des Jeux Olympiques. Victor Wembanyama et ses partenaires vont devoir faire mieux s'ils veulent y briller à ces Jeux. La star française qui pense tout de même que son équipe sera beaucoup plus compétitive samedi face au Brésil pour son entrée en lice dans le tournoi olympique.
Je pense que c'est la concentration à la fois et de voilà cette volonté de finir les matchs. Je pense qu'on a fait une performance solide, mais ça reflète tout ce qu'on doit améliorer. Mais on sera prêt dans 6 jours. Et il n'y a vraiment aucune inquiétude. Hein. On a fait le choix d'avoir une préparation dure. Et je pense que ce qui est très positif, c'est qu'on a une grande marge de progression. Donc je ne m'en fais pas du tout et je sais qu'on sera prêt le jour. Je me sens bien. J'essaie de m'adapter à mon rôle le plus vite possible. Ce qui est très positif, c'est qu'on s'entend tous bien et que en dehors comme sur le terrain, on a tous les outils pour régler en fait les petits soucis tactiques. Voilà, c'est ce qu'on va faire et j'essaie de montrer l'exemple sur le terrain.
Direction maintenant Tahiti où les compétitions de surf auront lieu et il y a ce village flottant. Reportage Margot Bédé pour RFI.
À première vue, la chambre est impeccable. Mais c'est sans compter l'œil tatillon de Maya Tounoua.
Il va falloir que je change ce drap parce que c'est mal repassé.
Elle est la directrice hôtelière à bord de l'Aranui 5.
C'est une des cabines que un de nos athlètes il va y séjourner. Vous avez une grande chambre. Un balcon. Toutes les cabines avec balcon seront pour les athlètes et les cabines sans balcon seront pour les staffs, ceux qui encadrent les JO.
Pourquoi les athlètes, ils sont en balcon?
Bah, je crois que c'est pour avoir une vue meilleure sur les vagues de Taobao.
Des athlètes bichonnés et un équipage mobilisé. La Ranui 5 est un cargo mixte qui transporte des touristes et du fret. Avec les Jeux, il ajoute une ligne à son CV, Arnaud Pichard et le capitaine.
Le navire sera un hôtel flottant, donc on n'a que quelques heures de navigation et on va rester 3 semaines au mouillage pour accueillir les athlètes et servir de logistique aux Jeux Olympiques.
Ce choix peut surprendre, mais pour Barbara Martin-Sniaud, responsable du site de Tahiti pour le comité d'organisation des Jeux, il était évident.
La spécificité de la presqu'île, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructure hôtelière. Il est apparu effectivement au pays pertinent d'identifier des solutions bateaux.
Le Grand Prix de Formule 1 en Hongrie dimanche a été remporté par l'Australien Oscar Piastri, sa toute première victoire en Formule 1. Un mot de tennis pour vous dire que Rafael Nadal s'est incliné en finale de Bastad face au Portugais Nuno Borges et le Français Arthur Fils qui a gagné son premier ATP 500 contre Zverev, l'Allemand, le numéro 4 mondial, Cédric de Oliveira pour RFI.
Et l'Espagnol a perdu en finale du tournoi de Bastad, c'est en Suède. Nadal, 38 ans, battu sèchement par le Portugais Nuno Borges, 6-3, 6-2. Même si c'était sa première finale depuis 2 ans, c'est assez inquiétant. À quelques jours de disputer les Jeux Olympiques à Paris, à Roland-Garros, dans son jardin, il sera aligné en simple et en double avec son compatriote, le jeune prodige Carlos Alcaraz. En revanche, belle performance pour Arthur Fils. Le Français a, lui, remporté le tournoi d'Hambourg en Allemagne. Il a battu en finale, une finale accrochée de plus de 3h30, l'Allemand Alexander Zverev en 3 manches, 6-3, 3-6, 7-6. C'est un tournoi ATP 500, c'est le troisième niveau des tournois de tennis à 20 ans. C'est la plus belle victoire de sa carrière puisque Zverev est quatrième joueur mondial.
Et puis sachez que le site de Roland-Garros sera seulement le deuxième événement olympique sur terre battue et le premier depuis les Jeux de Barcelone en 1992. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi.
C'était Comportement, une chanson d'Aya Nakamura. C'est une sélection du mois de juillet 2024 sur SBS Audio. On va prendre une courte pause et puis on retrouve Romain Bardet sur la route de la Grande Boucle, dont l'édition 2024 est sa toute dernière. À tout de suite.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu passes la ligne d'arrivée, là, dans les derniers mètres, quand tu vois l'ovation, tout le monde qui se lève et tout ça?
Ouais, c'est dans la lignée de ce que j'ai eu la chance de recevoir tout ce Tour de France. Je crois que voilà, c'est une fin rêvée. Je voulais essayer de me montrer sur le Tour, de faire quelque chose de spécial. J'ai eu la chance que le destin soit de mon côté pour que ça arrive rapidement. Donc je suis vraiment très content de, après vraiment le sentiment d'avoir tout donné hier et d'avoir été voilà à mon niveau et à ma place, de pouvoir aujourd'hui d'en profiter un petit peu comme si c'était mes Champs-Élysées, c'était précieux, précieux.
Pour nous, on a l'impression qu'il y a une multitude d'émotions qui t'ont traversé pendant ce tour bien différent à chaque fois.
Oui, forcément. Forcément, je crois que ça a été le grand 8 des émotions depuis 11 ans sur le tour. Voilà, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Les moments, on se met plus bactère. Il faut s'en relever, il faut répondre aux attentes. J'ai l'impression qu'en 11 ans, j'ai grandi comme si j'ai mûri énormément. Donc, depuis quelques années, j'ai quand même beaucoup plus de recul et je crois que cette année, j'étais arrivé à une maturité pour... déjà l'hiver dernier, quand j'ai pris ma décision, je savais que j'avais les ingrédients pour en profiter au maximum. Et j'ai été un petit peu gâté par le destin de pouvoir finir de la sorte.
Mais c'est pas fini.
C'est pas fini, non, exactement. Après, voilà, il va falloir re-switcher. Ça va être... J'ai eu la chance d'être dans une équipe qui me soutient, qui m'a proposé de continuer selon un petit peu mes envies et j'ai envie de refaire le Tour d'Italie une dernière fois. Je l'ai fait 3 fois et de finir sur le Dauphiné pour que ces émotions elles se diluent un petit peu dans le temps et que voilà, je suis en paix en tout cas avec ma carrière et ce que j'ai fait.
Est-ce que tu t'attendais à ce que le public te donne autant sur ce tour?
Vous savez, c'est pas quelque chose qu'on commande et j'ai jamais voulu en jouer de toute façon, donc par pudeur j'ai pu parfois être distant et mais je crois que c'était pas par arrogance ou quoi que ce soit, c'était juste par pudeur et par aussi la sensation que moi j'ai pas l'impression d'avoir vous savez, on est sans arrêt remis à sa place en vélo, on va dans une telle douleur et on en doute souvent de soi-même et donc j'avais toujours peur que cette attention qu'on me voit plus beau que je le suis vraiment et donc voilà, c'est ça que ça n'a jamais été facile pour moi à gérer.
Tu parles d'envie pour le Giro et le Dauphiné et le fait de lisser les émotions, on va dire, mais est-ce qu'il reste des objectifs également?
Bien sûr, si j'ai décidé de continuer, c'est que avec l'équipe on est bien d'accord, c'est que je veux être au Giro pour épauler les jeunes, essayer de pourquoi pas gagner une étape qui me manque et je vais surtout passer beaucoup de temps avec lui en stage en début de saison. Je crois qu'au niveau personnel, j'ai quasiment fait tout ce qui m'était possible de faire. Donc maintenant, ma mission, elle est dans la... Si je peux transmettre un tout petit peu et voilà, prendre du plaisir, parce que c'est aussi les 6 derniers mois d'une vie, finalement. Voilà, j'ai à transmettre. J'ai eu la chance d'avoir toujours eu beaucoup d'attention et beaucoup de monde autour de moi. Et si je peux donner un petit peu en retour aussi, je crois que c'est le juste retour des choses.
Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur SBS Audio. Bien, le président démocrate américain Joe Biden a annoncé dimanche 21 juillet, dans un communiqué publié sur le réseau social X, le retrait de sa candidature pour l'élection présidentielle du mois de novembre prochain. Ce désistement peut-il relancer la campagne démocrate et faire gagner la vice-présidente Kamala Harris contre Donald Trump? Bien, pour en parler, Amy Porter, porte-parole des Democrats Abroad, organisation qui représente le Parti démocrate en dehors des États-Unis. Elle est avec Nathalie Armard de RFI.
Et c'est effectivement toute la question. Ce matin, ce désistement peut-il relancer la campagne démocrate et faire gagner le parti contre Donald Trump? Bonjour Amy Porter.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI, porte-parole des Democrats Abroad. Amy Porter, depuis ce débat raté à la télé fin juin, Joe Biden semblait très mal engagé pour emporter cette élection. L'état de santé était devenu le sujet numéro un de la campagne démocrate. Vous avez été soulagé de l'annonce de son retrait?
Ce n'est pas vraiment une question de soulagement. Je suis en admiration devant le président Biden qui se sacrifie, qui sacrifie ses ambitions personnelles pour le bien du pays. Vous savez, quand il s'est présenté en 2020, c'était pour protéger les États-Unis, sauver les États-Unis d'un deuxième mandat de Donald Trump. Aujourd'hui, il fait également acte pour cette même raison. Mm-hmm. On lui a convaincu qu'il n'était pas le mieux placé pour battre Donald Trump, donc il cède sa place.
Mais vous pensez qu'il aurait pu effectuer ce second mandat?
Moi, je pense qu'il aurait été élu, mais bon, maintenant, tout ça, ça ne vaut plus grand-chose. Mais pour la bonne et simple raison, c'est que la base du Parti démocrate, c'est des femmes, surtout des femmes de couleur, et que cette fois-ci, en vue des politiques complètement aérées des républicains, on avait un quart des femmes républicaines qui comptaient également voter démocrate. Je pense que ce chiffre peut encore grandir.
Alors les républicains qui estiment aujourd'hui Joe Biden incapable de gouverner et de mener à bien même cette fin de mandat jusqu'en janvier prochain, janvier 2025, il ira, quoi qu'il arrive, au bout de ce mandat, Amy Porter, ou il pourrait se retirer?
Il va évidemment tenir jusqu'en janvier. Je pense que les républicains devraient se méfier des choses qu'ils souhaitent. On dit en anglais « be careful what you wish for ». Si Biden désistait aujourd'hui, Kamala Harris deviendrait président. Donc c'est tout ce qu'ils ne veulent pas. Donc je ne comprends pas leur logique. Mais surtout, c'est leur campagne qui est maintenant plongée dans le chaos. Parce que depuis 2 ans, leur seul et unique message a été de dire « Joe Biden est trop vieux et maintenant Donald Trump est le candidat présidentiel le plus vieux de l'histoire ».
Effectivement, il va falloir qu'il trouve d'autres arguments face à une éventuelle candidature de Kamala Harris. Alors, l'annonce d'hier, Amy Porter, elle s'est effectuée en 2 temps. D'abord, un communiqué adressé aux Américains dans lequel Joe Biden annonce son retrait. Dans un deuxième temps, via Twitter, il apporte son soutien à Kamala Harris. Est-ce que ce soutien, vous avez entendu le reportage d'Edward May à Atlanta, est-ce que ce soutien n'arrive pas trop tard? Parce que là, à 3 mois et demi de l'échéance, pardonnez-moi l'expression, mais il lui passe la patate chaude. C'est une décision qui aurait pu être prise il y a longtemps déjà.
Écoutez, je ne connais pas ses motivations pour avoir pris cette décision. D'ailleurs, personne ne les connaît parce qu'il ne les a pas données pour l'instant. Il va s'exprimer à la fin de la semaine. On verra bien les raisons pour lesquelles il a décidé de se désister. Ce que je peux vous dire, c'est que le Parti démocrate a dans ses processus, dans ses règles, un plan justement pour ce genre de choses. Et si, pour l'instant, Biden a quand même soutenu Kamala Harris, et pour moi, c'est ce qui est la chose la plus logique,
évidemment,
c'est qu'elle soit désignée candidate, c'est parce qu'il ne faut pas se mettre le charrue devant les bœufs. Le comité démocrate va réunir, les délégués vont décider, vont voter. Mmh. C'est un processus démocratique.
Oui, mais ce sera une campagne extrêmement courte, une campagne express pour celui qui sera désigné.
104 jours est une éternité. Donc, on parle toujours dans les élections américaines de la surprise d'octobre. Donc, comme avec la campagne en 2016, quand on a fait toutes ces révélations, soi-disant révélations, sur les emails de Hillary Clinton, qui a fait basculer l'élection à quelques semaines ouais, de l'échéance. Alors, donc là, on a la surprise d'octobre en juillet.
Alors voilà, vous évoquez Hillary Clinton. Elle et Bill Clinton, l'ancien président, font partie de ces grands noms démocrates qui, dès hier, se sont rangés immédiatement derrière la candidature de Kamala Harris. Il y a aussi la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren. C'est une autre voix qui porte dans votre parti. Je vous propose de l'entendre.
Je soutiens la vice-présidente Kamala Harris parce qu'elle est prête à unir notre parti, affronter Donald Trump et gagner en novembre prochain. Kamala a été une combattante féroce pour l'avortement. Grâce à elle, nous allons restaurer la décision Roe contre Wade partout dans le pays. Mais le plus drôle, c'est qu'elle va se retrouver face à un criminel. Et qui mieux qu'une ancienne procureure pour affronter Donald Trump?
Voilà le plaidoyer d'Elizabeth Warren en faveur de la candidature de Kamala Harris. Et Amy Porter, tout le monde n'a pas été aussi clair chez les démocrates, notamment Barack Obama, qui n'a pas cité le nom de la vice-présidente comme potentielle candidate après le retrait de Joe Biden, comme candidate à l'investiture. Comment expliquez-vous ce silence et le fait qu'il réclame aujourd'hui une primaire ouverte?
Alors, j'explique la démarche de Barack Obama de deux façons. Première façon, il ne veut pas non plus se mettre à la place des délégués du comité démocrate qui vont prendre leur décision. C'est à eux de décider qui sera le candidat, pas lui.
Mmh. Ils sont deuxième plus de 3000, façon, on le rappelle, venus de tous les États des États-Unis. Ouais.
Et de l'étranger, nous envoyons, nous, Democrats Abroad, un ancien délégué à la convention.
Ouais.
Donc, la deuxième façon, c'est que Barack Obama est quelqu'un qui soigne particulièrement tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Mm-hmm. Je pense que dans un premier temps, il voulait rendre hommage à Joe Biden, président, ouais, son ex-vice-président, pour le geste, le sacrifice personnel qu'il fait pour passer la main à quelqu'un d'autre.
Oui.
Et je suis sûre que dans un deuxième temps, une fois que le processus aurait été réussi, il va s'exprimer en faveur de Kamala Harris parce que c'est quelqu'un qu'il a toujours soutenu. Et d'ailleurs, il a été primordial dans le choix de Joe Biden de la prendre comme colistière.
Merci Amy Porter d'avoir été en ligne avec nous, porte-parole des Democrats Abroad.
Radio SBS en français, en ligne et sur votre smartphone.
Je suis avec Johan Gioferran et Vincent Ventura, les deux restaurateurs français derrière l'Entrecôte Group de Sydney. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Audrey.
On vous avait déjà reçu, Johan, dans le programme il y a 5 ans, je crois, pour nous parler de la brasserie L'Entrecôte. Donc d'abord, félicitations. C'est une période assez des fois difficile pour les restaurants. Donc vous êtes toujours là. Et puis maintenant, vous avez aussi Bouillon L'Entrecôte et deux frères également à Sydney. Parlez-moi d'abord de vos deux restaurants, Bouillon L'Entrecôte et Brasserie L'Entrecôte.
Merci d'abord de nous recevoir. Et oui, c'est vrai, depuis 5 ans, on a fait pas mal de chemin. On a toujours mis autant de passion dans ce qu'on aime, c'est-à-dire la nourriture et le vin français. Voilà, ce qui nous manquait un peu dans notre vie australienne et qu'on voulait faire partager aussi à la population au Sydneysider. Et du coup, après notre succès, on va dire, outside of the CBD, on voulait ramener le concept de l'Entrecôte dans la city. Et Bouillon L'Entrecôte est né. On a eu cette opportunité, donc à Circular Quay, d'ouvrir l'Entrecôte numéro 2 un petit peu, qui a eu beaucoup de succès avec le même concept. Le steak frites, les sauces secrètes, les frites maison, la salade aux noix, Après, voilà, on fait tous les classiques qu'on peut retrouver, qui nous rappellent la cuisine de nos grands-mères principalement. Donc, on va retrouver des bœufs bourguignons, des canards confits, des soufflés au fromage, un peu de foie gras, saucisson, charcuterie, tous ces classiques. Mais on vous invite à venir tester directement au restaurant. Pour parler après sur l'expansion de l'Entrecôte Group, on a voulu partager aux habitants de Sydney et à tout le monde, parce qu'on a beaucoup de visiteurs du monde entier avec les cruise boats, les touristes qu'il y a par notre situation, notre location géographique qui est Circular Quay. On a voulu partager et créer quelque chose d'autre, et ça nous a amené à revenir un peu sur notre jeunesse, c'est-à-dire sur pas vieux, mais sur notre jeunesse française. Sur notre jeunesse française, avec l'ouverture d'un bar à, on va dire, tapas pour ceux qui connaissent, mais Pinchos Bar, qui est un bar à tapas basque et qui nous rappelle, nous, un peu nos vacances et un peu là où on a grandi, car on a de la famille de ce côté-là-bas. Et donc, deux frères aînés, donc Vincent et moi-même. Nous n'avons pas de frères, mais on est un peu les frères qui se sont connus ici en Australie il y a 10 ans de ça, et qui avons créé et commencé cette aventure ensemble avec l'Entrecôte, avec Brasserie l'Entrecôte en 2016, tout premier. Et voilà, en 2023, deux frères, Pinchos Bar Tapas, étaient nés. Et l'année prochaine, on essaye d'évoluer sur un nouveau projet qui est signé et qui devrait voir le jour d'ici 2025 dans les alentours de Double Bay.
Ah, d'accord, donc je vais vous en reparler. Mais pour dire d'abord à deux frères, donc vous disiez que vous avez une connexion assez forte avec le Pays Basque. Pourquoi? Qu'est-ce que vous passez beaucoup de temps là-bas quand vous étiez plus jeune?
C'est proche de là où nos familles sont. Vincent a grandi du côté de Bordeaux, donc très, très proche de la frontière basque. Et c'est, on va dire, on se rapproche un peu de l'Espagne, du soleil, oui, vous devez connaître Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Sébastien. C'est vraiment de grandes villes qui sont connues même mondialement. Donc, autant pour les Français qui vont passer leurs vacances là-bas. Et forcément, vu que c'est à côté de la région, vous retrouvez toutes ces spécialités culinaires, en fait, dans cette partie du sud-ouest de la France. Vous avez ambiance un peu plus intimate. Donc, c'est un peu plus petit, ça a pu choquer un petit peu au début parce que c'est un peu étroit, mais justement, c'est l'ambiance qu'on recherche, où c'est pas chacun à sa petite table. On est loin derrière l'époque Covid où il fallait 2 mètres entre chaque table. Non, on veut cet espace où justement, tout le monde peut parler avec tout le monde, partager une bière avec un pinchot. Et bien, ça crée vraiment cette ambiance très, très proche et très basque, tout simplement.
Et parlez-moi de votre menu. Si je viens chez deux frères, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous me recommandez?
Il va vous dire, mais à mon avis, il va falloir que vous veniez plus d'une fois, tout simplement.
On a un petit pinchos pour commencer, ou un petit gulas. Vous en prenez une petite tortilla de patates faites à la minute. Et on fait des petits lobster rolls sympas. Vous savez, c'est un petit peu que des finger food, donc c'est que des plats à partager.
C'est principalement fait pour... Ça a été fait pour partager...
Et une sangria, bien sûr.
Un petit sangria maison qu'on fait maturer pendant plusieurs jours. Bon, on ne dira pas la recette parce qu'on en a essayé beaucoup dans Sydney. Et bon, je pense que la nôtre est, encore une fois, je ne vais pas dire un niveau supérieur, mais au niveau que nous, on attend. Et voilà. Donc, la qualité s'y retrouve normalement. Et on fait en sorte que, justement, il y a un suivi derrière ça pour garder cette qualité linéaire.
Vous avez un gâteau basque sur le menu. Vous dites the real Basque cake. Pourquoi?
Pour pas confondre avec the burnt cheesecake. On peut retrouver un petit peu partout. C'est un des plus vieux desserts, je crois, qui date de plus de 1800, quelque chose, 1860. Et 1830, on n'était pas loin. Donc, dans les années 1830, c'est un gâteau basque. C'est vraiment les origines, donc c'est un peu pour ça qu'on a voulu l'appeler le real de real gâteau basque, pas le cheesecake basque, donc comme les gens peuvent faire beaucoup sur Sydney. Mais en fait, ce que nous on a appris avec les familles, les grand-mères, etc., c'est que à l'époque il y avait pas beaucoup d'ingrédients. Et les mamies, elles faisaient ce gâteau avec ce qu'il y avait dans la cuisine, c'est-à-dire farine, des œufs, du beurre. Et on a entendu des histoires qui disaient qu'il y avait toujours un peu de rhum qui traînait parce qu'il y avait beaucoup, à l'époque, de contrebande qui venait de l'Espagne. Et il y avait toujours une bouteille de rhum qui traînait dans le placard de mamie et qui rajoutait pour ajouter ce flavor dans le gâteau basque. Donc voilà, c'est un gâteau qui est pas dur à faire. Faut juste bien savoir les proportions. Et je crois la chose la plus importante, c'est la cuisson, bien évidemment. Faut pas que le gâteau soit trop sec. Mais voilà, c'est plus simple. C'est à base d'œufs, de farine d'amande pour la crème pâtissière, des œufs, du beurre, tout simplement. Et beaucoup d'amour.
Et puis vous me dites, donc vous changez les saveurs, la saveur fréquemment aussi. Comment vous le faites?
C'est le feeling à l'intérieur. Donc cette semaine c'est à la cerise noire et la semaine prochaine ça sera la pistache.
Ouais, on essaye de varier pour que les gens aient toujours un peu quelque chose de nouveau. On a beaucoup moins de desserts que de plats salés parce qu'on essaye de rester dans les traditions. Ça permet aussi aux gens qui viennent assez fréquemment d'avoir du changement et de tester. Mais comme on disait, les deux grandes classiques, donc au nord du Pays Basque, on a les cerises noires et au sud, on est plus sur la crème pâtissière.
Et puis, est-ce que les gens qui viennent chez vous connaissent bien la cuisine du Pays Basque ou est-ce que est-ce qu'ils sont surpris quand ils viennent manger chez ces deux frères?
Il y a beaucoup d'échanges qui sont faits avec notre personnel qui est français. Où on a même du Pays Basque, donc ils ont leur propre dialecte, c'est ni des Français, ni des Espagnols, ça vous les entendrez toujours batailler là-dessus, mais du coup il y a beaucoup d'échanges avec le client, et non, ils aiment découvrir d'autres choses. Mais après vous avez, comme j'ai dit, une grande population hispanique qui connaît le Pays Basque, qui connaît ses origines, et qui viennent pour ça, pour retrouver ses délices.
Et puis plus tôt, vous me disiez que vous préparez quelque chose pour l'an prochain, un autre restaurant. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus?
On ne va pas tout dire. Ça va rester du très classique, mais très bien fait. Voilà. Donc, Train Bleu est un de nos restaurants préférés avec Vincent, qui est très historique en France, qui est dans une gare, qui est magnifique. Pour nous, c'est même un musée tellement il est beau. On n'a jamais la prétention de recréer quelque chose comme ça, mais pour recréer peut-être une expérience très similaire avec ou un service au guéridon qui serait un service sur un chariot où on ferait beaucoup de shows et de présentations devant le client. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant.
Puis vous savez dans quel coin de Sydney déjà, est-ce que vous voulez le révéler ou non?
Oui, ça sera pour Double Bay.
Donc, dans quelle partie de 2025 on peut s'attendre à ça?
On va planifier pour mi-2025. Mais bon, vous savez, avec les constructions, tout ce genre de choses, on donne jamais de date précise. Mais suivez-nous sur les réseaux et vous aurez les informations partagées en temps et en heure.
Parfait. Merci beaucoup, Johan et Vincent.
Merci,
Audrey. Merci, Audrey. Bonne journée à vous.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Et c'était Tout oublié, une chanson d'Angèle. Place à présent au sommaire des grands titres de l'actualité de ce mardi 23 juillet. La police décrit un décès par délit de fuite dans le Queensland comme un homicide lié à la violence domestique. Et en France, Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse pour la première fois après les élections législatives anticipées, alors que les tractations pour la nomination d'un premier ministre s'enlisent. Et aux États-Unis, la vice-présidente Kamala Harris définit les grandes lignes de sa campagne pour les présidentielles du mois de novembre prochain. Et voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le programme en français ce jeudi à la même heure. Bon après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.